With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bah, j'ai 15 ans et en fait, tous les déplacements que je faisais à Paris à ce moment-là, c'était mon père qui travaillait en plus à Paris, qui faisait les allers-retours entre Rouen et Paris, qui venait avec moi et voilà. Et je me retrouve là-bas avec lui, dans le bureau de Michel Lafon, et on reste 2 heures et on discute et tout. Je présente les bouquins, etc. Et puis à la fin, il fait « Ok, on va vous faire une proposition, vous allez signer chez nous ». Et donc le truc se fait comme ça, et moi je me dis bon bah je vais attendre, peut-être que dans 15 jours, 3 semaines je vais recevoir un truc. Et à peine, genre 20 minutes après, 25 minutes après, on est à Saint-Lazare avec mon père pour prendre le train, on monte dans le train, et là je reçois un mail avec une proposition de contrat. En me disant voilà, bienvenue chez Michel Lafon, et c'était parti.
Exécuté par
qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès, depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions, et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. Tu t'entends ?
Je m'entends.
Tu vois, plus tu approches.
Si tu fais comme ça,
je fais comme ça, je m'entends un peu.
Exactement.
Moins, et si je fais comme ça, je m'entends super bien.
Tu connais ?
Un petit peu.
Tu fais des podcasts ?
Je ne fais pas de podcast, j'ai fait une série, un programme sur le mentorat sur l'appli Magellan.
Ah yes.
Mais jamais fait de podcast plus que ça. C'est un format sur lequel j'ai un peu de... En fait, j'ai du mal à les écouter. Où je suis pas plus... Enfin, c'est pas que je suis pas le plus grand fan, mais en fait, vu que j'ai du mal à rester concentré sur des paroles sans faire autre chose à côté, même devant un film, tu vois, je suis obligé d'avoir mon téléphone et faire des trucs. Et ce qui fait que j'ai...
Tu es ce genre de... Bah, tu es donc cette génération.
Moins de 15 minutes, je tiens. Plus de 15 minutes, ou alors il faut que je le fasse en plusieurs fois. Quoi.
Mais tu sais, tu peux écouter des podcasts en, je sais pas, en faisant du jogging, en faisant
alors,
ton...
Je ne fais pas de jogging. En fait, le problème, c'est que j'ai cherché des activités dans lesquelles je pouvais
les écouter. En marchant, dans la rue ? Mais peut-être tu marches pas.
Et bah, à la limite, quand je marche, c'est avec Antonin, parce qu'il me traîne à marcher souvent.
Antonin, ton associé, donc
c'est ça, exactement. Et ou sinon, je préfère la musique. Mais c'est vrai que les podcasts, j'ai du mal à trouver vraiment des moments où je peux me poser, tu vois, et écouter ça.
Ok.
Mais faudrait que j'y arrive, parce qu'il y a des podcasts passionnants, sans aucun doute. Et
Ouais, après, il y a des. Si t'as du mal avec les formats longs, tu vois, tu peux écouter un format d'une heure en 4x15, pardon, mais.
Ouais, complètement. Mais en vérité, il faudrait que je le fasse.
Non, mais c'était pour. Mais c'est intéressant parce que je crois aussi que. Donc, t'es tout jeune.
Je suis né en 2000, donc j'ai 21 ans.
Ouais. Donc, t'es un 2000, quoi.
Je suis un 2000. Ah oui, non, mais si on part direct là-dessus, laisse tomber, quoi. Enfin, tu dis t'es un 2000 à une meuf que t'essaies de draguer, c'est déjà fini, en fait.
Donc, ah ouais ?
Ah bah oui. Un 2000. C'est grave.
Mais parce que tu veux dire les meufs que tu vas draguer qui sont plus vieilles que toi ?
Par exemple, c'est compliqué. 2000, t'es catégorisé. Tu es la génération bébé, TikTok, Instagram. Mais moi, ça me dérange pas, puisque pour le coup, c'est la base de ce que je fais au quotidien,
bah oui,
donc tant mieux.
Mais... De ton métier.
C'est ça, mon métier.
Mais donc, ton fameux. Tu racontes que t'es vraiment dans un truc où t'as du mal à regarder un film sans faire autre chose à côté, quoi.
Disons que c'est compliqué. Alors, juste sauf au cinéma, à la limite, ou vraiment au cinéma,
t'es obligé
je respecte le truc et je suis dedans. Je sais que chez moi, je me regarde un film, je vais faire peut-être 4 pauses, ou juste je vais mettre sur pause, je vais faire autre chose à côté pendant 5 minutes, puis je vais revenir. Je fume, enfin, j'essaie de diminuer la clope, mais ce qui fait que je me fais au moins 5 pauses clope sur un film, donc ce qui fait que je vais vraiment mettre sur pause. Je vais avoir mon téléphone dessus, je vais me balader sur Twitter, sur Instagram, mais bêtement, en fait, machinalement. Et en même temps, en train de regarder le film, donc c'est, y a un niveau de concentration, je trouve, à la maison, en tout cas, qui est différent de l'expérience au cinéma, où pour le coup, c'est beaucoup plus immersif, et t'as une forme même de respect pour le film, pour les gens qui sont autour. Mais bon, il y a beau y avoir des gens autour chez moi, j'ai quand même mon téléphone, quoi. Ce qui fait beaucoup, d'ailleurs, pendant le confinement, ce qui a beaucoup fait suer ma mère, parce que je suis rentré chez mes parents pendant les confinements.
Ouais.
Et qui trouvait ça insupportable que je sois sur mon téléphone pendant qu'on regardait un film. Et je lui disais, mais je suis, tu sais que j'écoute ce qui se passe. Et elle n'arrivait pas à comprendre qu'il était possible de regarder un film tout en regardant Twitter. Ce que je peux comprendre, puisque ça m'énerverait aussi si je voyais, je pense, un jour des gens faire ça à côté de moi. Mais vu que je le fais, je m'en rends pas compte.
Mais de ce fait-là, t'as pas l'impression de ne pas profiter complètement des deux expériences, en fait ? Tu vois ce que je veux dire ?
Si on considère que Twitter est une expérience...
Mais bien sûr que c'est une expérience, Twitter.
Dans ce cas-là, non, je me suis jamais posé la question de est-ce que je profite suffisamment de Twitter. Tu vois, je préfère profiter du film pour le coup et faire une minute sur Twitter. Mais dans le cas où ça... Pour le coup, TikTok, par exemple, je regarderais pas, ou des formats Reels sur Insta, je regarderais pas ça en regardant un film en même temps.
Parce que d'avoir les deux vidéos, pour le coup, c'est...
T'as deux vidéos et t'as deux formats de contenu que tu consommes qui sont totalement différents. En revanche, lire du texte ou faire défiler ou regarder les photos, tu vois, bon, à la limite, ça se fait.
Ok. Donc, Guillaume, on est déjà parti depuis 3 minutes, mais peu importe. Guillaume, t'es donc entrepreneur. Comme tu viens de dire tout à l'heure, t'as 21 ans.
C'est ça, entrepreneur depuis quelques années. Disons que c'est le seul métier, entre guillemets, même si j'aime pas l'idée qu'entrepreneur soit un métier, mais c'est la. J'ai envie de dire la seule fonction professionnelle que je trouve cool à avoir et que je trouve, enfin qui pour moi est la plus à même de correspondre à ce que j'ai envie de faire et à ce que j'aime faire, à savoir être dans l'action et faire des choses vraiment et qui sont concrètes et palpables et durables. Et voilà, donc entre Guillaume, entrepreneur, bonjour.
Guillaume, t'as un parcours un peu particulier parce que t'as commencé justement à entreprendre très jeune. On va en reparler, hein. Tu vas raconter un petit peu ton histoire. Et effectivement, tu t'es lancé après tes études dans l'entrepreneuriat. En fait, globalement, tes études ont été ta création d'entreprise, en fait. Enfin, en tout cas, ton apprentissage, t'as créé à travers la création d'entreprise. C'est hyper intéressant.
Disons qu'il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu une première étape d'entrepreneuriat que je dirais junior, qui était l'idée juste, même pas en fait, d'entreprendre ou de créer un projet, mais qui était juste faire des trucs qui m'amuse.
Pas de créer un projet pour le coup.
Donc c'est... Oui, mais à la limite, c'était même pas encore, si tu veux, considéré dans ma tête comme étant un projet concret. C'est-à-dire que quand j'avais 12-13 ans et que pour le coup, la première version du Petit Mardi est sortie en numérique et qui était un petit journal de 30 pages et tout, fait sur Word, mais qui était plutôt beau hein, pour être fait sur Word. Franchement, je pense que sincèrement, on aurait pu candidater à un truc type grand concours de graphisme sur Word. Je suis sûr que ça existe quelque part dans un état américain. Mais le truc était pas mal. Et
avec les clipart.
Oui, c'est ça. Tu vois, mais en vrai, c'était pas dans ma tête, en tout cas, c'était pas un projet pur et dur. Tu vois, c'était vraiment le truc qui m'amuse en dehors de l'école et du collège et à faire avec des copains. Et disons que c'est à partir du moment, je pense, où c'est sorti en papier que c'est devenu un réel projet. Et à partir du moment où on a une diffusion plutôt nationale et où il y a eu un effet beaucoup plus grand avec la presse, etc. Où là, pour le coup, avec Antonin, on était deux, j'étais plus tout seul non plus. Et où il y avait cet aspect, là, pour le coup, vraiment de vrais projets, voire d'entreprise. Et après, c'est vrai que la période d'études a été très courte pour le coup, puisque j'ai fait, j'ai passé mon bac, après je suis parti faire 7 mois à l'Université de Montréal. 7 mois officiellement, 2 semaines dans les faits, mais ça c'est un autre sujet. Et j'ai arrêté parce que, bon déjà j'avais pas validé mon deuxième semestre, et ensuite parce que ça me plaisait pas, et donc là pour le coup je suis rentré en France, Antonin était encore à Sciences Po, et on s'est mis en coloc, et là ça a été le départ vraiment du projet entrepreneurial d'entreprise à 100% et on y va quoi.
On va reparler de tout ça, de ton parcours. La première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans ?
Quand j'avais 7-8 ans, c'est à ma maman qu'il faudrait demander ça parce qu'elle saurait décrire parfaitement à mon avis le truc.
Tu te souviens plus toi ?
7-8 ans, j'étais en quoi 7-8 ans ? J'étais en CE2, CE1, CE2. J'étais un gamin qui travaillait bien à l'école, genre très bien, genre j'avais vraiment des très très bonnes notes. J'aimais beaucoup Zorro, je regardais tous les films de Zorro, Mission Impossible, James Bond, Madame Doubtfire, c'était un de mes films préférés pour une raison incompréhensible, mais j'adorais ce film.
Robin Williams.
Oui, puis il y avait cet aspect en fait, vu que j'adorais l'idée d'être quelqu'un d'autre, et je me déguisais beaucoup quand j'étais petit. Vraiment beaucoup. J'avais un énorme carton de déguisement que j'avais récupéré avec des fringues, des vieilles fringues de mes parents, ma grande sœur, mon grand frère, et des vieux déguisements de mes parents qui avaient dû servir à des soirées de Nouvel An quand ils avaient 35 ans, 25 ouais. ans. Et donc, ce qui fait que je me déguisais beaucoup, et je pense que j'étais un gamin qui avait envie d'être un personnage fictif qui l'inspirait. Donc, okay. Pour le coup, je sais que j'ai beaucoup fait croire, par exemple, jusqu'au CP, à mes copains de classe que j'étais Zorro et vraiment Zorro. Et je pense que j'étais convaincu dans ma tête de l'être vraiment quand je rentrais chez moi le soir.
Et la base, bien sûr.
Donc, ce qui fait que voilà, je pense que j'étais plutôt comme ça. Et puis après, bon élève et voilà, et j'avais des cheveux toujours un peu longs, mais pas très courts. Et je jouais au tennis et je faisais du piano. Voilà.
Ok. Tu faisais du piano depuis longtemps ?
J'ai fait 4 ans de violon, 4 ans de piano. Et en fait, comme je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à accepter l'autorité, et notamment j'ai aucun problème à me remettre en question quand on me fait une critique que je trouve argumentée et logique. Quand il s'agit d'un prof de piano qui me tapait sur les doigts en me disant que c'était pas bien, ça commençait à me gonfler.
Tu te tapais littéralement sur les doigts?
Bon, c'était une image, mais bon, malgré tout, les doigts étaient sur le piano, donc je pense que c'est peut-être une image aussi un peu réaliste. Et disons que bon, j'avais un peu de mal avec ça et avec les différents profs que j'ai eus, donc j'ai arrêté. Et voilà. C'est que j'ai, ouais.
T'as du mal avec l'autorité quand tu la juges pas suffisamment compétente pour te donner des trucs, ou alors t'as du mal avec l'autorité d'une manière générale?
Disons que j'aime pas trop j'ai aucun souci dans l'idée à faire des choses qu'on me demande de faire. En revanche, je vais avoir un souci à partir du moment où je vais considérer avoir fait l'effort, en tout cas d'avoir essayé de faire le mieux possible, et que la personne en face ne considère pas que j'ai fait cet effort-là. Et quand ça arrive une fois, bon, ça me saoule, mais j'ai rien à dire. Deux fois, ça m'énerve un peu plus, et trois fois, ça va me faire vraiment, vraiment suer. Et c'est pour ça d'ailleurs, par exemple, j'avais fait un travail, j'avais bossé pendant 2 mois dans un titre de presse, un taf d'été, il y a quelques années. Et en fait, au début, ça se passait très très bien parce que j'avais un boss qui était super cool et qui m'avait donné différentes missions où j'avais fait plutôt dans un temps assez restreint et tout, donc c'était chouette. Et puis il y a un autre boss qui est arrivé quand lui est parti en vacances et qui a été quelqu'un qui, pendant 15 jours, littéralement, je vais être un peu vulgaire, mais m'a fait chier, pur et dur, où ça a été assez insupportable, donneur de leçons, incompréhension de ce que je faisais, ne respectait pas du tout, en fait, les idées ou le travail que j'essayais de faire. Et là, vraiment, je me suis dit, genre, je ne veux pas être salarié. Je sais que c'est quelque chose qui ne me plaît pas du tout, et où, justement, genre, respecter un boss et les demandes d'un boss quand je ne les trouve pas du tout en adéquation avec ce que j'ai envie et ce qui me plaît, ça, ce sera jamais possible.
Mmh. Oui, ça se...
Ce qui se comprend, hein, mais par exemple, ce qui se comprend, mais qui en même temps, tu vois, quand tu regardes le nombre de gens qui se plaignent en allant au travail, mais qui malgré tout restent dans leur taf, pour maintes raisons, hein, il y en a 10 000 des raisons qui poussent les gens à rester travailler à un endroit qui leur plaît pas, bah malgré tout, moi ça me rend triste, et j'ai pas du tout envie d'être comme ça. Par exemple, du type, ne serait-ce que la réflexion le mardi matin, encore 3 jours avant le week-end, moi elle me perturbe, c'est-à-dire que toute ta semaine, tu la cadres par rapport à tes 2 jours où tu ne vas pas travailler. Ce qui est quand même particulièrement triste, sachant que si on part vraiment de l'idée que le travail est une besogne terrible et affreuse, dans ce cas-là, bah, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens de travailler pendant 40 ans, quoi.
Ouais, mais tu te doutes bien qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment d'autre choix.
Il y a des gens qui n'ont pas forcément le choix, et c'est pour ça que tu vois, il y a 1000 raisons qui font que ça. Mais en tout cas, quand on a la possibilité de choisir, et pour le coup, c'est la chance d'avoir été mon cas, ou de pouvoir qualifier cette idée en me disant bah peut-être que je peux faire en sorte justement que ça n'arrive pas, et si jamais ça arrive un jour, j'espère pouvoir faire en sorte que ça n'arrive plus. Et d'où l'idée d'entreprendre aussi, tu vois, d'avoir cette forme de liberté, ça fait que j'en suis très heureux et que je sais que j'en suis très chanceux.
Tu sais, l'autre truc qui est fou aussi, je crois, qui incite les gens à rester dans leur boulot, c'est le sacro-saint CDI, en fait, dans notre... Et je parle pas forcément du CDI comme lien qui peut, régir une relation entre patron et salarié, mais c'est qu'en fait, tu peux rien faire sans CDI, en fait, dans cette société. Mm-hmm. Tu peux pas louer un appart.
Alors, bah, ça a été le rêve ultime de ma mère.
Ouais.
Et que j'ai un CDI. Mais véritablement. C'est-à-dire que je pourrais gagner un SMIC si j'avais un CDI, ma mère serait vraiment heureuse. Et il lui a fallu du temps.
Mais t'es un CDI donc aujourd'hui.
Bah,
tu t'es fait un CDI avec ta boîte.
Bah aujourd'hui il y a ma boîte, tu vois, c'est, ce que, c'est ça, c'est qu'il y a cet aspect où, où moi en tout cas j'ai pas peur de l'insécurité de l'entrepreneuriat en disant bah demain ça peut s'arrêter. Oui, ça peut s'arrêter, oui évidemment, mais comme de la même manière qu'une boîte peut faire faillite et tu peux te faire virer, enfin il y a mille raisons qui peuvent faire que les choses peuvent s'arrêter demain, mais en tout cas c'est un aspect où, où moi ça m'intéresse peu l'idée de la sécurité, de me dire demain je vais au travail, je sais que je vais toucher le chômage, je sais que bah, demain en tant qu'entrepreneur, enfin avec Antonin mon associé, enfin si demain la boîte ferme, on est obligé de la fermer, bon on a rien. Mais c'est aussi la vie et c'est le jeu et c'est aussi tout ce qui te pousse derrière aussi à faire des trucs et à faire en sorte que ça continue. Je pense que ça te donne une, t'as une énergie quand t'entreprends et quand tu sais que si tu ne fais rien, je pense que 15 jours après, la boîte est morte.
Peut-être qui, pas 15 jours, mais.
Bah, presque, tu vois, j'ai envie de dire.
Ça dépend des,
sur,
ça dépend des boîtes.
Sur des boîtes qui sont petites, c'est sûr que demain tu prends le groupe Bouygues ou Bouygues Télécom, si pendant 15 jours Martin Bouygues n'est pas là, bon, je pense que ça peut se gérer. Sur une boîte qui a moins de 15 personnes, 15 salariés, sans les boss pendant 15 jours, à mon avis, ça devient très vite le bordel. Mais c'est normal, parce qu'il y a cette idée de structure, il y a cette idée de direction, mais même pas de la direction au sens chef, mais de la direction au sens vraiment de donner une sorte de vision, un axe, tu vois. Et
tu peux partir 15 jours en vacances et ta boîte, elle va pas manquer de vision.
Bah, disons que là où tu peux partir 15 jours en vacances, c'est que malgré tout, tu pars jamais vraiment 15 jours en vacances. Et tu sais ça, peut-être.
Bien sûr.
Tu l'as été aussi dans cette condition-là. C'est que même si tu pars 15 jours à Bora Bora, tu sais que pendant 15 jours à Bora Bora, il y aura, à mon avis, maximum 2 journées où t'auras pas ton téléphone, où tu seras injoignable. Le reste du temps, tu sais que t'es obligé de l'être parce que tu sais pas ce qui peut se passer, parce qu'on peut avoir besoin de toi et parce que mine de rien, genre tu as envie d'être là et que tu ne peux pas non plus t'en passer parce que c'est essentiel pour toi de savoir ce qui se passe dans un environnement que t'as créé. Et c'est un truc qui est assez pervers d'ailleurs, c'est très pervers. On l'a vu pendant l'été, on est chacun, et quand on est parti moi en Corse, lui en Grèce, oui on était à distance, mais mine de rien, on avait un regard, même quand on passait chacun notre tour une journée à la plage ou quoi que ce soit, on savait très bien que le soir on checkait si tout s'était bien passé quoi.
J'ai beaucoup d'admiration pour ça et un peu de nostalgie aussi parce que, et en même temps, je sais pas, peut-être en fait que je suis un vieux con, tu vois, mais je me reconnais beaucoup dans ton discours et en fait je me rends compte aussi que c'est ce qui m'a cramé la gueule quand j'étais patron de ma boîte, c'est que je finissais par être dans ce truc où t'as la sensation que tu... Comment dire ? T'es un peu dans un cercle vicieux où, en fait, comme t'as la sensation, comme tu dis, que t'as besoin d'être là et qu'en fait, tu peux pas faire autrement parce qu'en fait, c'est un truc que t'as créé, etc., tu finis par ne pas créer les conditions pour pouvoir te casser, justement, tu vois. Et ça, j'ai compris ça les 3 dernières années, en fait, où j'avais vraiment décidé de mettre en place un management derrière, enfin, tu vois, des N-1 derrière qui vont s'occuper du truc et tout, et que j'ai fait cette démarche-là. Je pouvais très bien, d'ailleurs je l'ai testé en fait les 3 derniers mois où j'étais en train de quitter la boîte, je n'ai rien fait de la journée et en fait la boîte elle tournait toute seule. Et tu vois, je crois aussi que c'est un piège, tu vois, qu'ont beaucoup d'entrepreneurs et de jeunes entrepreneurs d'avoir envie de tout contrôler, tu vois, et au final tu finis par il essaie un peu ta santé, quoi. Tu vois.
Et ça, je pense aussi, hein, complètement. Mais ça, ça fait partie.
Je vais pas donner de leçons, hein, tu vois.
Je comprends. Le point de vue est super intéressant en plus parce que tu vois, c'est quelque chose qu'on essaye de faire pour le coup, d'essayer d'avoir des chefs de projet, tu vois, pour le coup, qui vont administrer des trucs sur lesquels on n'a pas forcément envie de passer tout notre temps, sachant qu'on, bon, ça sert à rien d'être sur 1000 trucs en même temps et qu'on peut essayer de nous préserver un peu. C'est l'idée aussi d'aller chercher par exemple des profils un peu plus seniors dans la boîte. On l'a fait avec notamment sur toute la partie créativité et direction artistique, etc. Histoire aussi de se soulager, si tu veux, de ces moments de travail intense où t'es à fond dedans pendant une semaine à réfléchir à ce que tu vas faire pour un client, alors que finalement tu pourrais juste prendre un peu de recul sur cette semaine et participer à un ou deux calls qui vont faire qu'à la fin de la semaine les choses seront faites. Mais disons que je pense, je sais pas si je suis prêt, je sais pas si même on est prêt aujourd'hui à lâcher un peu de mou, parce qu'on sait aussi qu'on est dans une période où la boîte est jeune, où dans les faits on a Audace à 2 ans et demi que ça existe, mais ça fait vraiment qu'un an, 12-14 mois que ça a vraiment pris et qu'on a une belle croissance.
Ouais.
Et on sait que si aujourd'hui on se met vraiment en retrait, on va la perdre.
Non mais ouais, il y a des étapes.
Tu vois, je pense qu'au bout de 50 boîtes, à mon avis, au moment où tu as atteint le palier que tu t'étais fixé, que tu as arrivé à avoir ton staff parfait avec vraiment tes petites business units qui fonctionnent bien, je pense qu'ensuite tu es capable derrière de prendre un peu plus de recul et ça arrivera sans aucun doute.
Je me doute.
J'espère en tout cas. Ou alors ce sera sur notre boîte et sur notre projet. Mais en tout cas, non, j'espère qu'Audace pour le coup va encore faire ses projets en tout cas.
Pour revenir à ton parcours, donc, parce qu'on est quand même là pour parler de ton parcours, mais j'adore digresser au fil de l'eau. Hein, mais donc ouais, j'ai cru entendre dans un podcast qu'en fait, donc tu parlais de ce fameux projet de journal qui s'appelait le Petit Mardi. Alors le Petit Mardi en fait.
Écrit bizarrement.
L'apostrophe Petit Mardi.
C'est ça.
Que tu avais lancé en fait quand tu avais 9 ans, avant même tes 12 ans là. C'était un projet.
En gros, l'idée du truc, ce qui était marrant, c'est que quand tu es en CM1, tu étudies les journaux et ce qu'est la une d'un journal. Et j'avais une instite qui nous avait donné une grande feuille en papier. On avait fait des petits groupes de 3 là. Et on devait dessiner la une d'un journal. Et c'était un mardi, on allait faire un journal qui était petit, et donc on a appelé ça le Petit Mardi avec le L'P, ce qui n'a absolument aucun sens, mais ce qui en même temps a fait aussi l'identité du truc, donc c'est assez rigolo. Et on avait fait la une.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Un journal, et en fait ça nous avait amusé, et donc on était rentré chez nous, et je sais pas, 2 jours après, moi je l'avais retapé sur Word, je l'avais imprimé, et j'avais dit à un de mes potes qui dessinait super bien, bah tiens, fais les illustrations à la main, et puis on essaie de faire un truc, et finalement on a fait un exemplaire, je l'ai toujours, il y a un exemplaire unique de ce tout premier numéro du Petit Mardi, qui est chez mes parents. Et en fait, ensuite, ça nous a amusé. Donc, on avait fait un deuxième, là, pour le coup, avec des photos. Et je me souviens, on faisait l'ours à la fin du journal où t'avais chef de la publicité, mais il n'y avait pas de pub. Mais c'était pas grave, c'était le nom d'un pote. Enfin, tu vois, c'était
le
genre de truc.
L'ours, si vous savez pas, c'est le crédit, en fait. C'est le générique.
D'un titre de presse qui soit au début, soit à la fin. Et en fait, le truc, c'est que, en fait, au fur et à mesure, on a fini par en sortir un par semaine que mon père imprimait à son travail. Et on avait, je sais pas, une petite dizaine d'exemplaires, mais ça faisait 3 pages, hein. C'était vraiment tout petit. Hein. Papier blanc, avec des grands encarts, une photo ou deux, il y avait des articles sur Haïti, sur quand il y a eu les différents séismes, il y avait je me souviens, il y avait des mini-critiques de films ou de trucs qui passaient à la télé, enfin, c'était vraiment assez simple. Et on distribuait ça dans la classe et tout. Et puis après, les choses ont fait qu'on s'est arrêté, on a grandi aussi. Et en fait, le Petit Mardi est revenu. Parce que j'avais participé à un prix qui était organisé par le journal de Mickey, qui proposait à des gamins qui aimaient lire de devenir jurés de leur prix littéraire, etc. Et j'avais envoyé ma candidature et tout, et ça s'était fait. Et ce qui fait que pendant 3 mois, tu lis des bouquins gratos qui te sont offerts par les maisons d'édition, tu t'écris des petits papiers qui passent dans le journal de Mickey, t'es invité chez Lagardère, à l'époque ils avaient leurs locaux à Levallois-Perret, énorme auditorium où t'es dedans, tu rencontres la rédaction du journal de Mickey où tu vois tous les gens en train de bosser en fait, en train de faire c'est un truc que quand t'as 11-12 ans et que t'as jamais, tu sais pas à quoi ressemble le travail. Si t'as la chance d'avoir pu découvrir le taf de tes parents, si t'y en es une fois, tu sais à peu près. Mais le fait que toi tu sois concerné directement, ça change totalement ta perspective. Et donc tu te dis je suis allé à Paris. Parce que je travaille, entre guillemets. Et ça fait un effet assez fou.
T'étais pas parisien, c'est ça ?
Non, du tout. Moi, je viens de Rouen, en Normandie.
Okay.
Et ce qui fait que même dans la banlieue de Rouen, donc moi, j'ai vécu dans un pavillon en province avec l'école qui était juste à côté où tu y allais à pied, tu vois.
Ils font quoi comme métier tes parents?
Ils bossent dans la formation professionnelle.
Ok.
Et donc ce qui fait que bon, assez attaché au milieu de l'emploi, ils connaissent ça, mais si tu veux pas du tout dans le milieu culturel, en tout cas journalistique, médiatique, etc. Et ce qui fait que bah quand tu retournes ensuite, je me souviens c'était l'année juste avant mon entrée en sixième, et quand t'arrives en sixième et que t'es non, je dis des bêtises, c'était avant mon entrée en cinquième. Et que t'arrives et que t'es là à être en classe, en sachant que deux semaines avant, t'étais avec des journalistes de chez Lagardère qui étaient en train de bosser sur le journal de Mickey, et que t'es super content parce que t'as vu la une avant tout le monde et que toi tu vas la recevoir par la poste. T'es là en mode putain, c'est fou. Bah, ça te donne envie de faire ça. Et en fait, avec une copine qui s'appelle Camille, qui était aussi membre de ce jury, en même temps que moi. On s'est dit bah viens, on lance un magazine et on essaye de faire des critiques aussi comme on a pu faire pendant tous ces mois-là. Et donc moi je lui ai proposé de dire bah écoute, moi j'avais un journal quand j'avais 9 ans qui s'appelait Le Petit Mardi, viens on reprend ce nom-là et puis voilà. Et ça s'est relancé comme ça, et en fait on a recommencé la parution au numéro 18 parce qu'on avait sorti 17 numéros avant Le Petit Mardi.
C'est génial.
3 ans plus tôt, donc on a recommencé, je me souviens c'était le numéro 18 en octobre 2012.
Donc t'as 12 ans.
Donc j'ai 12 ans. Et là, petit changement, c'est que pour le coup, on évolue, sachant qu'on passe de 3 pages, là pour le coup, à, je sais pas, il y en avait 30, 35 sur le premier numéro, avec des articles super intéressants. Le premier article d'ailleurs, c'était sur le harcèlement scolaire. Donc voilà, il y a plein de trucs. Et on s'est dit, bah c'est con, parce qu'avant on recevait des bouquins avec le journal de Mickey, là on n'en reçoit pas, faudrait qu'on fasse un truc. Et moi, je me suis amusé à chercher tous les noms des chargés de communication et gens chargés de la presse dans les maisons d'édition et à envoyer des mails en disant voilà, on est des jeunes, on a participé au Grand Prix du Journal de Mickey, on a envie de faire des critiques littéraires qui sortiront dans ce magazine. Ça fait déjà 10 000 lecteurs, ce qui était totalement faux, mais bon, quitte autant y aller à fond. Et en fait, on s'est mis à recevoir. Je me souviens, ça avait carrément perturbé ma mère parce que un jour, elle avait ouvert la boîte aux lettres. Ça devait être en septembre ou octobre 2012, ouais, c'est ça. Elle ouvre la boîte aux lettres et là, elle me dit « Oh, on a, t'as reçu des livres d'achète, etc. Enfin, va falloir que tu les payes. » Donc, ça fait quand même, je sais plus, ça faisait, sachant que c'est des bouquins à 20 balles, c'est quand même 40 euros. Donc moi, j'avais envoyé un mail en disant « Mais écoutez, j'ai reçu des bouquins de votre part, comment dois-je vous payer ?» Et tu vois, il m'a dit « Bah non, c'est gratuit, vous êtes la presse. » Et moi, je me suis dit « C'est génial !» Donc sur ce, j'avais envoyé des mails à tout le monde, Hachette, Gallimard, Michel Lafon, et on s'est mis à recevoir des tonnes de livres. Il y en avait au moins 3 par jour dans la boîte aux lettres pendant facile 2 ans. Donc ça a construit ma bibliothèque chez moi, qui est géniale, mais les 2/3 des livres sur ceux, je les ai pas payés. Donc ce qui est assez fou, pour le coup. Et ça m'a fait lire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc en fait, le journal ensuite sortait tous les mois, et on avait toujours un sujet. Et au fur et à mesure, on a pu avoir des interviews sympas. Et toujours au culot, tu vois, j'étais fan de la série Profilage sur TF1. Donc j'avais contacté l'agent d'Odile Villemain, donc qui joue la fameuse Chloé, la rousse un peu bizarre. Et elle avait accepté une interview pour la nouvelle saison. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça, mais qui te marquent. En plus, quand t'as 12, 13, 14 ans et que t'as ton petit magazine qui te rapporte zéro parce que tu t'en fous, que t'as même pas de structure, t'as juste des potes qui bossent dedans et qui font des petits papiers et tout. Et en fait, c'était assez chouette. C'était assez chouette, uniquement en numérique. Et je me souviens, je l'envoyais, je faisais une newsletter qui sortait à chaque fois. Et donc, mes parents les transféraient à leurs collègues, puis mes grands-parents à leurs amis. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est retrouvé pour le coup, à ce moment-là, avec facile 4-5 000 lecteurs au bout d'un an, un an et demi. Donc ce qui était chouette, parce
bah
qu'on
oui.
on bossait après les cours là-dessus, mais c'était génial de pouvoir faire ça.
Quand est-ce que c'est devenu...
Sérieux ?
Un vrai projet, pas un vrai projet, c'était déjà un vrai projet, mais...
Il y a eu deux étapes. Il y a eu une première étape qui était celle de rendre... le magazine structuré, et donc ça dans ma tête ça passait par une structure légale, et un jour mon père me dit bah t'as qu'à faire une asso, et donc je me renseigne et tout et je me rends compte qu'en fait bah créer une asso c'est pas compliqué, le seul hic c'est que j'avais 14 ans et que en France tu ne peux pas créer d'association d'entreprise avant tes 16 ans, enfin et entreprise encore ça dépend,
c'est là qu'on voit que ton père est pas entrepreneur hein, parce qu'il dit tu peux créer une asso quoi,
c'est ça. et absolument ouais. Et donc ce qui fait que Je regarde un peu et en fait finalement je dis bah ce que je vais faire c'est que mes parents vont être président et trésorier, je vais créer dans les statuts un statut de bénévole à l'intérieur qui donne des super pouvoirs un côté un peu machiavélique dans le truc, mais bon. et voilà. Et en fait, la sauce s'est faite comme ça avec mes parents au début qui étaient à la tête du truc, mais qui n'ont jamais rien fait. Hormis, si ils ont fait un truc, ils ont payé ensuite, mais ça, c'est le deuxième sujet, ils ont payé un tout petit truc au début. En gros, donc la sauce se crée, t'as des frais, donc j'avais financé avec l'argent de mon anniversaire. Et ensuite, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'avais écrit un petit bouquin, et en fait, à force de lire des livres et de rencontrer des auteurs pour faire des interviews et tout, pour le magazine, moi j'avais un fantasme absolu qui était celui, d'être édité. Et donc, j'avais écrit un petit bouquin, mais vraiment qui faisait, je sais pas, ça devait faire 45 pages Word, 40 pages Word, qui ressemble plus à une grosse nouvelle qu'autre chose. Et je voulais le faire publier. En fait, bon, je savais pertinemment que ça marcherait jamais, donc je regardais pour l'auto-édition. Et en fait, t'as plein de sites d'auto-édition en France qui existent, il y en a par dizaines, en Angleterre aussi, et des sites qui sont plus traduits en français, donc t'as plein d'options. Et en fait, l'option la plus simple, d'un coup, que je trouve, c'est un truc en Allemagne qui te permet de l'imprimer, mais en plus de l'imprimer non pas au nom de l'auto, et, enfin, de ce faux éditeur qui t'auto-édite, mais de le faire avec ta propre boîte, et en mode ça imprime et ça, en plus ça le distribue pour toi, mais c'est au nom que tu veux, enfin bref, le truc était génial avec le système de distribution de Gallimard, enfin un truc assez génial qui faisait qu'en fait t'étais partout en librairie, en impression à la demande, mais c'est à dire que t'allais à la Fnac, tu demandais le bouquin, la Fnac pouvait acheter 3 exemplaires et les foutre en rayon. Donc je lui dis super option, donc on part là dessus auto-édité sur ce avec l'association, donc le petit mardi édition ça s'appelait. Et donc, je te dis le premier, et là, pour le coup, il y a eu des premiers frais avec mes parents. Il y avait, je sais plus, 40 ou 50 euros d'impression pour imprimer les 10, 15 premiers exemplaires. Donc, mes parents me les offrent, ils me disent, bah, c'est pour nous, etc. Donc, j'étais super content. Et ensuite, il y a eu quelques semaines après, il y a eu un salon du livre à Rouen, qui est organisé et tout. Et en fait, mon grand-père partage, parce que mon grand-père est poète et, il y avait des gens qui le suivaient à Rouen dans le milieu littéraire et tout, sur Facebook, et donc ils partagent mon truc. Et il y a un mec qui me contacte en me disant, bah voilà, j'organise un petit salon du livre à Rouen sur les quais de Seine, est-ce que ça tente de venir présenter ton livre? Donc je dis, bah chaud, je viens. Et donc je m'y retrouve là-bas avec mes 20 exemplaires. Et les 20 exemplaires partent entre 9h et 14h. Et je fais les meilleures ventes de salon, on était quand même 40 auteurs. J'ai dit, c'est fou, qu'est-ce qui fait que ça marche autant? Et en fait, le truc, c'est juste, bah, vu que j'étais jeune, et pour le coup vraiment jeune, je pense que ça a attiré les gens, tu vois. Et c'est pas pour autant que le livre était bon, loin de là, je suis retombé dessus il y a pas longtemps en rangeant ma chambre chez mes parents. Et en vrai, non, c'est pas éditorialement, c'était pas publiable, tu vois. Mais en tout cas, sympa. Et en fait, à un moment donné, je sais pas, on me demande, lors de ce salon, est-ce que tu comptes faire un tome 2? Et moi, quand même, je dis oui, il sort dans 2 mois, vous pouvez le précommander d'ailleurs. Et donc, il me dit, ok, bah ça marche, bah je te fais un chèque tout de suite, et comme ça, je le reçois par la poste au moment où ça sort. Parce que moi, un tome 2, j'avais écrit 15 pages, sur, il était pas prêt du tout. Donc là, pendant 2 mois, je m'enferme à fond, je fais que ça, à côté de l'école et maman à fond. Et le tome 2, qui était 2 fois plus gros que le premier en plus, sort. Et ça tombe pile poil au moment où je fais mon stage de 3e, et je le faisais chez France Bleu Normandie. Stage que j'avais chopé d'ailleurs grâce au Salon du Livre, parce qu'il y a un mec de France Bleu qui était passé et qui m'avait proposé de faire mon stage de 3e là-bas.
Okay.
Et donc je me retrouve dans ce stage et tout, et à un moment donné j'envoie un message à une journaliste via Twitter, je crois, ou je sais plus, de Paris Normandie, donc le canard local. Et qui m'appelle pendant que je suis chez France Bleu à mon bureau. Et donc je réponds à ses questions et tout. Et t'as une journaliste de France Bleu à côté qui écoute, qui entend tout, et qui après l'appel fait, écoute, excuse-moi, j'ai entendu ta conversation, mais est-ce que c'est vrai, t'as sorti un livre, etc. Et donc là moi je sors mon sac, je dis bah oui et tout. Et en fait elle me dit, bah super, on va faire un sujet maintenant, ça va passer sur France 3, enfin sur France Bleu Normandie, mais ça va passer aussi sur le JT National, et en plus de ça il y a l'animateur qui veut t'avoir pour un après-midi entier, etc., à parler de ton livre. Moi je suis en mode, trop cool quoi, le truc est fou. Donc l'article sort dans Paris Normandie, ça sort sur France Bleu, là je suis contacté par la chaîne normande qui est la chaîne locale, la chaîne normande voit ça, fait ça, ensuite t'as France 3 Normandie qui le voit, qui m'invite, qui fait un reportage. T'as BFM qui, via son correspondant local, qui fait un truc. Je me retrouve invité au Grand Journal qui entend parler du truc via France 3. Et donc là, la pire angoisse de ma vie, c'était affreux. Je suis invité comme
au grand journal de Canal+, qui à l'époque, j'imagine,
c'était Antoine Decaune, ça faisait 1,5 million, quoi.
Ouais.
Et c'était affreux. C'est en même temps le meilleur moment médiatique que j'ai pu faire, et en même temps le pire, le meilleur, parce que ça m'a fait comprendre ce qu'était la télé et à quel point j'allais aimer ça. Enfin, vraiment, ça m'a donné un avant-goût qui était juste fou. Et en même temps, c'était terrible. Enfin, sans rentrer dans les détails, le truc était stress de dingue parce que on m'invite par rapport à la loi Macron en tant que plus jeune entrepreneur de France. Donc, surnom qu'il m'avait donné, en fait. Donc, je me retrouve à devoir parler en tant que jeune éditeur, et en même temps jeune auteur, mais jeune éditeur de la loi Macron en n'y connaissant que dalle. Donc, c'était un stress incroyable. J'ai revu des séquences. Vraiment, tête à claque, insupportable, tu sais, du gamin qui a trop révisé et qui est là, pas trop stressé. Je me suis fait pipi dessus en arrivant au sens propre du terme, tellement j'avais peur. C'était horrible. Vraiment, c'était horrible. Et en fait, après ça, voilà, il y a eu Europe 1, il y a eu plein de trucs. Un soir, la Tour Eiffel sur France 2. Enfin, vraiment, ça a été un vrai moment médiatique très, très agréable et très chouette, où ça a fait monter à la fois le livre, et en même temps le magazine. C'est-à-dire qu'on est passé de 4, 5 000 lecteurs à un peu plus de 10 000. Donc, c'était super chouette pour le coup et c'était trop bien. Et ensuite, de l'idée que ça avait fait les médias, je me suis dit, on va rester dans cette dynamique de culot et je vais essayer de trouver des éditeurs pour publier vraiment mon livre dans une vraie maison d'édition. Et puis l'idée aussi d'avoir des retours, des conseils et tout ça, quoi.
Et j'imagine que c'était pas très compliqué après avoir eu cette couverture éditoriale.
Mine de rien, si, un peu.
Okay.
C'est-à-dire que j'en ai rencontré quand même 3-4 et des gros qui m'ont plus fait tourner en bourrique dans un premier temps, parce que j'étais jeune aussi et que même moi je savais pas comment ça fonctionnait vraiment. Et finalement, en fait, le hasard a fait que au moment où j'ai abandonné l'idée de faire ça, j'étais invité à la remise des prix du Grand Prix des lecteurs du journal de Mickey, juste en tant qu'ancien. Et le gagnant de cette année-là, c'était en 2015, c'était en octobre 2015, je crois. Le gagnant du prix des lecteurs du journal du Mickey cette année-là était un livre de chez Michel Lafond. Et donc, d'un coup, t'as Michel Lafond qui arrive, qui a sauté dans un taxi, qui s'est dit, tiens, je vais aller voir justement l'auteur et tout, machin. Et je vois ce mec là-bas et je me dis, mais je connais ce monsieur. Je sais pas d'où, mais je le connais. Et en fait, il avait fait une vidéo avec Natou, quand Natou avait sorti son bouquin Faux Magazine, Icône, chez Michel Lafond. Et je me dis, mais c'est comme ça que je le connais. Donc je regarde, je vérifie sur Internet et tout. Et je me dis, non, je peux pas les essayer.
Tout part de Natou.
Je me dis, mais non, mais vraiment tout part. Mais d'ailleurs, je l'ai remercié un jour, parce que je l'avais croisé, et je l'ai remercié de ça, parce que sinon, je n'aurais jamais pensé. Et donc je me dis, je peux pas laisser passer Michel Lafond, il est là, je suis obligé d'aller le voir. Et donc je suis allé le voir, je me souviens, il se baladait dans les rayons de la Fnac des Ternes, un peu paumé, ne sachant pas trop où aller, etc. Et donc je lui dis juste, je m'appelle Guillaume, j'ai sorti 2 livres en auto-édition, ça a bien marché, j'adorerais être publié chez vous. Et le mec reste stoïque, vraiment stoïque, il ne dit rien. Puis je finis sûrement de blablater pendant 1 minute 30 ou 2 minutes en racontant tout ce que je voulais raconter, en essayant de me vendre à fond. Et il me serre la main, il me fait « appelez-moi demain ». Ouais, je dis, j'ai pas son numéro, donc sur ce, le lendemain, je suis là, il faut que j'appelle quelqu'un, donc je vais appeler le standard de Michel Lafond. Donc j'appelle en disant, Michel Lafond m'a dit de le rappeler. Et donc il me transfère à sa secrétaire qui me dit, ok, est-ce que vous êtes dispo mercredi après-midi prochain pour se voir à Neuilly chez Michel Lafond? Donc, trop bien, donc j'y vais avec mon papa.
Oui, parce que t'as que 15 ans.
J'ai 15 ans et en fait, tous les déplacements que je faisais à Paris à ce moment-là, c'était mon père qui travaillait en plus à Paris, qui faisait les allers-retours entre Rouen et Paris, qui venait avec moi et voilà. Et je me retrouve là-bas avec lui, dans le bureau de Michel Lafond. Et on reste 2 heures et on discute et tout. Je présente les bouquins, etc. Puis à un moment donné, on parle totalement d'autres choses. Ça dérive pas mal. Et puis à la fin, il fait, ok, on va vous faire une proposition. Vous allez signer chez nous. Et donc le truc se fait comme ça. Et moi, je me dis, je vais attendre que dans 15 jours, 3 semaines, je vais recevoir un truc. Et à peine, genre 20 minutes après, 25 minutes après, on est à Saint-Lazare avec mon père pour prendre le train. On monte dans le train. Et là, je reçois un mail avec une proposition de contrat. En me disant, bienvenue chez Michel Lafond. Et c'était parti.
Qu'est-ce qu'ils ont dit, tes parents? Parce que du gamin qui fait mumuse sur Word, etc.
Disons qu'en fait, vu que les choses se sont faites vachement dans le temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu. Il y a eu un moment d'accélération en 2015 avec les médias, mais si tu veux, ça mine de rien, ça va faire 10 ans en juin prochain que je fais des trucs à côté de l'école et que je taffe un peu. Bon, même c'était taf qui était.
Tu travailles.
En tout cas, que je participe à des projets. Et disons qu'ils ont vu ça comme étant des moments qui étaient chouettes, où ils m'ont toujours soutenu en étant derrière, en regardant, au début un peu beaucoup plus que maintenant. Enfin, même si ça fait, ça veut bien faire 3-4 ans qu'ils m'ont totalement lâché et que maintenant je fais mes
t'es majeur maintenant après tout.
Oui, c'est ça. Et puis en vérité, il y a un moment donné où ils ont arrêté parce qu'en fait, ils suivaient plus. Genre, ils n'arrivaient pas forcément à suivre. Surtout à partir du moment où on s'est associé avec Antonin, où les choses allaient très très vite et on faisait plein de trucs. Disons qu'ils suivaient plus du tout. Et donc, ce qui fait que non, je pense qu'ils sont contents. Je pense qu'ils sont fiers. En tout cas, ils me l'ont dit. Donc, je pense que c'est vrai. Et voilà, mais en tout cas, c'est les plus fidèles followers qui existent. Ma maman like tout, partage tout à ses collègues, à tout ce qui. Voilà, et mon père fait pareil. Donc c'est très agréable parce qu'aussi, ils connaissent exactement tout ce qui se passe, ils savent avec qui je bosse, comment je bosse. Donc en plus, les confinements là ont permis, en plus, pour eux de se figurer de ce qui se passait vraiment. Et ce qui fait que ils sont au courant des contrats, ils sont au courant des projets, ils sont au courant des discussions, d'un mec qui a appelé. Enfin voilà, c'est rigolo de pouvoir partager ça comme ça avec eux, quoi.
Et donc pour revenir au petit mardi, Michel Lafon s'est validé, quoi. Tu sortais bouquin.
Et donc le petit mardi, en fait, à ce moment-là, le projet est de donc la promo avait beaucoup servi avant, en tout cas sur l'auto-édition. Et là, le projet est, au moment où je signe avec Lafon, est de lancer le magazine en papier en Normandie. Projet un peu fou au démarrage. Mes parents, pour le coup, n'étaient pas forcément des plus partants, parce qu'en fait, c'est le moment où ça a commencé à coûter de l'argent. Et chose étant, c'est que mes parents n'allaient pas du tout participer, ils n'avaient pas forcément les moyens de participer à ce truc, et moi, je n'en avais pas. Donc, il a fallu aller chercher de l'argent. Et donc, ce qui fait qu'au début, j'aurais pas trop dit, mais j'avais calé des rendez-vous. Donc en faisant des petits mails, encore une fois au culot, avec la DIRCOM de la région Normandie, avec le patron de l'Opéra de Rouen, enfin tu vois, des trucs comme ça. Où
tu leur disais pas.
Je leur disais pas, parce que si tu veux, ça les inquiétait, ouais. Sachant que je leur avais présenté un jour, je me souviens, le coût d'un magazine papier, et ça, le magazine en diffusion, je sais pas, si tu prends, on était tous bénévoles à l'époque, donc t'avais l'impression, t'avais les rédacteurs, et t'avais la correction et la maquette, et encore la maquette, c'est moi qui la faisais au début, ça faisait peut-être ça avait coûté 5 000 euros. Et donc je leur avais présenté ça, et là mes parents avaient dit non mais c'est n'importe quoi, tu vas pas dépenser 5 000 euros là-dedans, tu pourras pas faire, on pourra pas le faire, donc c'est même pas la peine. Et donc moi dans ma tête j'étais là en mode mes parents veulent pas, donc faut que je leur montre que je peux le faire, et en plus de ça il faut que je trouve 5 000 euros. Donc comment on trouve 5 000 euros? Donc j'ai dû taper un jour sur Google comment trouver 5 000 euros, c'est probable. Hein.
Et en vendant de la drogue, non, c'est
pas... Non, c'est pas une bonne idée. Peut-être attendre un peu quand même. Mais ce qui fait que j'ai cherché, et en fait, à force de trouver, il y avait quelques magazines gratuits à Rouen, des journaux gratuits, et donc je les avais récupérés pour voir qui, finalement, payait des pubs là-dedans, qui étaient les annonceurs. Et je les ai tous contactés, un à un, en cherchant, je sais plus, sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Viadeo, qui à l'époque était un peu plus utilisé que LinkedIn. Et en fait, finalement, je les ai rencontrés, et j'ai réussi à faire signer. En gros, le magazine allait sortir en papier tous les 2 mois. Donc, c'est que je savais que j'avais 6 numéros par an. Donc, en gros, j'avais 35 000 euros à peu près à trouver par an. Et donc, j'avais réussi à faire signer à peu près 15 000, 20 000 à partir du premier numéro. Donc, ça, c'était chouette. Après, il y a eu plein de partenariats qui ont permis en fait de faire réduire les coûts, etc. Donc ça, c'était vachement cool. Mais ce qui fait que le premier numéro est sorti en janvier 2016, en papier, en Normandie. Il y a eu 25 000 exemplaires diffusés sur toute la région, tous les lieux culturels de l'Eure et de la Seine-Maritime. Donc ça allait des commerces de proximité jusqu'aux librairies, à l'opéra. Il y avait un partenariat avec le rectorat de Rouen qui diffusait 10 exemplaires par établissement scolaire, en grosso modo, c'était quelques profs principaux qui avaient ça, le prof principal ou le proviseur, et il y en avait quelques exemplaires au CDI, donc c'était plutôt chouette. Et c'est à ce moment-là que je rencontre Antonin, donc dans les mois qui suivent, où, pour le coup, Antonin faisait des vidéos de philo sur YouTube, des articles de philo sur son blog, et faisait de la photo. Et un jour, je rentre de Paris pour je ne sais quelle raison, et je vois des photos exposées dans la gare de Rouen. Il y avait des travaux et il y avait des grandes bâches avec des photos. Et une photo canon, c'était une photo de l'hôtel de ville de Rouen de nuit. Je lui dis, elle est trop belle, cette photo. Et en fait, finalement, c'était une photo de Cantona avait prise. Donc, je tape son nom sur Instagram ou je sais plus, ou quelque part. Et je lui envoie un mail. Et en fait, il se trouve que une semaine ou 10 jours avant, il m'avait lui-même envoyé un mail pour me proposer de travailler dans le team.
Ah, ok.
Et on s'est fait, bah, on finit par prendre un café ensemble. Antonin préparait Sciences Po à l'époque. Et donc, il se met à écrire des articles de philo avec une photo à chaque fois pour illustrer dans le magazine. Et 2-3 mois plus tard, en fait, je pars, Antonin part à Paris faire ses études à Sciences Po. Et ça colle pile poil au moment où le magazine se met à sortir en national. Puisque en fait on avait fait le choix pour le coup et tous en équipe, puisque à ce moment-là Antonin ça faisait peut-être 6 mois qu'il était là, on était une petite équipe très fermée où finalement en fait les rédacteurs qui étaient les plus engagés en fait participaient aussi au plan de com, aux différents projets qu'on pouvait monter, etc., etc. On était peut-être 5-6
à... C'était toujours une asso à l'époque.
C'était à ce moment-là ça venait tout juste d'être transformé en entreprise.
Okay.
Tout juste. Où finalement personne ne gagnait de l'argent non plus, à la différence que les rédacteurs ensuite ont commencé à être payés à partir du moment où on l'a lancé en national. Voire même un peu avant, je crois. Je saurais plus dire. Et en fait... À ce moment-là, le magazine sort en national parce qu'on n'a plus les moyens de le faire en Normandie. Pour la bonne et unique raison, c'est qu'une fois que tu as épuisé tous les annonceurs locaux, nous, on n'avait pas envie d'avoir de la pub pour McDo. Donc, c'est que la seule possibilité qu'on avait, c'était soit d'arrêter parce qu'on financièrement, c'était plus tenable, soit de le lancer en national et d'aller sur une autre étape et donc à une plus grande échelle et donc aller viser d'autres types d'annonceurs et des plus gros. On avait sous-estimé la difficulté d'aller chercher des gros annonceurs. J'avais vraiment sous-estimé ça. Mais en tout cas, ça c'est encore un autre sujet, mais en tout cas le magazine sort en papier, en national, 35 000 exemplaires dans 2/3 des kiosques français en septembre 2017. Énorme promo, on a une chance de dingue. En même temps, ça se comprend aussi, le magazine était vraiment très quali. Il était très beau, les articles étaient géniaux. On avait un éditorial branché sur la culture qui était très large et où on arrivait à cibler tout type de sujets qui pouvaient intéresser les 15-25 ans, écrits par les 15-25 ans avec des très belles plumes. Puis il y avait une dynamique qui était géniale, des jeunes qui lancent un magazine papier pour faire venir les jeunes en presse, enfin en kiosque, et acheter de la presse. C'était fou, on a eu des chiffres de vente d'ailleurs qui étaient excellents, qui étaient, pour te dire, on tirait quasiment autant d'exemplaires que les Inrock, on vendait 3 fois plus. Donc il y avait un aspect qui...
Après, est-ce que les Inrock est un bon...
Non, mais tu vois, quand tu prends les Inrock
étaient en train de...
Toi, les Inrock ou Libé, en termes, tu vois, et pour le coup, les Inrock, avaient ses abonnés, etc. Donc nous, en kiosque, en tout cas, nous, on n'avait pas d'abonnement à l'époque.
Mais c'était important pour toi de faire du papier, justement, parce que...
Vraiment.
C'est marrant, parce que, bon, on n'est pas de la même génération, hein, je suis 2 fois plus vieux que toi, mais j'ai ce truc, moi, où quand j'ai découvert Internet, il y avait un truc d'instantanéité et d'interactivité qui m'a tout de suite... branché de fou sur Internet, là où toi j'ai l'impression que t'as ce truc très le papier, quoi, tu vois.
Disons que
un peu vintage.
Aujourd'hui, avec le recul, il y a 2 trucs que je me dis, c'est que si le Petit Mardi avait été un site d'information lancé en 2012 pour la jeunesse, fait par des jeunes, et que ça avait été monétisé, je suis convaincu qu'on aurait aujourd'hui un site avec une audience qui cartonne.
Bien sûr.
Du moins, on aurait réussi vraiment à créer un truc assez fou. Avec une vraie marque média.
Il y en a pas d'ailleurs.
Il y en a pas. Il y en a eu des thématisés.
Parce que
t'as eu des sites thématisés pour le coup avec de vraiment une thématique type littéraire, type cinéma qui ont existé. T'en as eu autour de la mode, par exemple Bonne Gueule, tu vois, qui était pas dédié à la jeunesse,
mais c'était en tout pas cas, pour les jeunes.
Mais en tout cas, qui avait vraiment une thématique derrière de mode masculine qui au début était minuscule quand ça s'est lancé. Toi, aujourd'hui, tu es une vraie marque média. Donc,
mais
on
tu vois, il n'y a pas.
Fait. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a une question. Maintenant, parce qu'en fait.
Je pense aux éditions Playback, tu vois, qui ont toujours été super bons dans le truc d'éducation aux jeunes, etc., avec leurs journaux. Ils n'ont jamais réussi à faire du web.
Idem chez Bayard. Mais tu vois, c'est un aspect où je pense que déjà, les choses ont fait que finalement, la vidéo a pris le dessus très très vite par rapport à ça. Et tu vois, dès 2013, 2014, 2015, tu vois, t'avais. Vraiment des mecs, même nous on a commencé à s'informer parfois via YouTube. Je me souviens quand j'étais en 6e où je suivais Norman et Cyprien sur YouTube. Donc t'avais déjà une dynamique vidéo Et ensuite, ça s'est beaucoup trop, enfin, ça s'est instauré très, 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 très rapidement. Vu qu'au Decrypt, il a monté sa chaîne en 2016. Mm-hmm. Donc, ça fait déjà 5 ans. Donc, il y aurait peut-être eu un créneau en 2012. Les choses ont fait que non. Et en fait, le papier, ça a été un, en vérité, il y a une forme de rêve et de fantasme et de côté très concret. Déjà, parce que j'ai toujours trouvé qu'un journal ou un magazine, c'était beau. J'adore voir un magazine, j'adore aller regarder l'ours à la fin, j'adore regarder comment il a été fait, genre sur ce qui même pas forcément sa ligne édito ou ce qu'il raconte, mais uniquement son façonnage, que je trouve vraiment passionnant.
Ça devient d'où ça?
Aucune idée. Okay. Sincèrement, j'ai aucune idée. Mes parents ne sont pas non plus des énormes lecteurs de journaux, mes grands-parents non plus, mais il y a un truc que j'ai toujours trouvé très beau dans un magazine. Un truc assez, je sais pas, je saurais pas dire, mais en tout cas c'est quelque chose que j'apprécie énormément, et ce qui fait que dans ma tête il y avait cet aspect, si Le Petit Mardi devient papier, Le Petit Mardi devient un vrai journal, devient un vrai média, devient un truc sérieux, donc on sera prêt au sérieux, et en plus de ça c'est beau, c'est cool, c'est chouette et ça m'éclate. Donc je pense que c'est un peu né de ça, et ce qui fait que le fait de voir, c'est un sentiment que j'espère un jour revivre dans ma vie, mais le fait d'arriver le matin de la sortie de ton premier numéro de ton magazine, où tu vas dans un kiosque, tu lèves la tête, tu le vois, c'est un truc qui est indescriptible. C'est un sentiment de fierté tellement partagé avec les gens avec qui t'as travaillé pendant des mois pour essayer de faire ce truc, en sachant qu'on te disait t'es fou, ça sert à rien, ou ça se vendra pas. En même temps, toutes les périodes de stress, le premier numéro du Petit Mardi en national, la couve c'était Petit Biscuit. Faut savoir que Petit Biscuit, au moment où on a fait la maquette, n'avait même pas répondu à l'interview. On a reçu les réponses aux questions de Petit Biscuit au moment où on faisait le bouclage. Donc vraiment, au moment où ça partait le lendemain matin à 6h à l'impression, le soir à 21h, on n'avait pas les réponses, il n'avait même pas encore accepté officiellement de la faire, cette interview. Ça a été une galère, c'était une galère folle, ça a été des heures de travail pour tout le monde, ça a été le plan promo était un truc à caler, qui était où on faisait tout à la mano et tout seul, et qui pourtant a été génial. On a fait l'Instant M sur France Inter, on a fait Culture Média avec Vandel sur Europe 1, on a fait de la télé, on a fait TV5 Monde, on a fait vraiment, il y a eu un JT sur France 2, on a fait le 13h du week-end d'Anne-Claire Coudray. Enfin, ça a été vraiment une très très belle promo. Et tu vois, quand ça s'est lancé, il y a eu tout ça, il y a eu cet aspect assez génial du projet entrepreneurial qui devient un vrai projet, une vraie entreprise. Et c'est là où, avec Antonin, pour le coup, là, on s'est associés. Et le moment où ça a été marrant, c'est qu'en fait, Antonin venait d'arriver à Sciences Po, le magazine sort, je suis invité sur Europe pour faire un truc. Et finalement, bon, Antonin vient avec moi, on se retrouve là-bas. Et à partir de là, genre, on s'est plus lâché, en fait. On s'est vraiment plus lâché.
2017, c'est ça ?
2017, ouais. Septembre 2017, c'est ça.
Comment j'ai cru comprendre qu'à un moment donné, ça a eu du mal à continuer à fonctionner économiquement, quoi. Vous finissiez par avoir des dettes.
C'est ça. En gros.
C'était quand, 2 ans plus tard, c'est ça ?
Même pas. En fait, il y a eu toute la période papier en Normandie qui a duré 2 ans et demi. 2 ans. Ouais, 2 ans, ça a duré. Au total, et le Petit Mardi en papier en national, ça a duré 3 numéros. Donc c'était très court finalement, on a sorti de septembre jusqu'à... Le dernier numéro était en mars, qui était un numéro absolument incroyable avec un dossier sur la Syrie, mais d'une qualité assez dingue. Sincèrement assez dingue. Je m'étonne encore, d'ailleurs je l'ai relu il y a pas très longtemps, de la qualité rédactionnelle qu'avaient les rédacteurs dans le journal, et même la vision éditoriale qu'on pouvait avoir sur l'angle qu'on prenait. En tout cas, c'était passionnant.
Qu'est-ce qui fait que ça a pas marché pour toi ?
Ce qui a fait, alors il y a des décisions en tout cas que j'ai prises où je sais qu'une grosse part de la responsabilité, enfin la responsabilité de l'échec du Petit Mardi sur du long terme vient de moi pour okay. Le coup, vraiment.
Bon, c'est souvent le cas. Hein.
Qui ont été des choix, qui ont été des choix très cons. Par exemple, le Petit Mardi quand il était en Normandie, il était diffusé gratuitement. Donc dans ma tête, quand au moment où on l'a lancé en kiosque, je me disais il faut que ce soit pas cher parce que c'était gratuit avant.
Ouais.
Et en fait, le truc, c'est que je l'ai mis à 90 centimes. Mais 90 centimes, un titre de presse en kiosque, c'est pas rentable à moins que t'en vendes 10 000. Et les coûts de distribution étaient monstrueux, et ça, on les avait pas calculés forcément comme il le fallait. La publicité, notre régie publicitaire a été là au premier numéro, puis nous a planté à partir du deuxième. Et même nous, en fait, on s'en foutait qu'ils nous ramènent 2 000 euros. Même si c'était juste 2 000 euros, c'était 2 000 euros en plus, et on était à 2 000 euros près.
Ouais.
Et en fait, nous a planté direct, donc ce qui fait qu'on a dû se retrouver sans régie pour le deuxième numéro. Et on a eu la chance d'avoir pour le coup des anciens partenaires de Normandie qui nous ont aidés. Je pense notamment à la ville du Havre qui a été incroyable sur ce coup-là, incroyable.
Le Havre représente.
C'est ça, avec Clotilde Larose qui était la DIRCOM qui nous a vraiment beaucoup aidés à ce moment où on était vraiment dans la merde. Et puis le troisième numéro est sorti, en fait on l'a sorti sans thune. On n'avait plus d'argent, mais on l'a sorti parce qu'on avait, on avait lancé un abonnement et on voulait continuer. Et puis moi dans ma tête c'était en mode non, on lâche pas en fait, on y va. Et c'était un peu irresponsable puisqu'on s'est retrouvé avec 15 000 euros de dette juste après la sortie. Et pour le coup, rien pour lancer un numéro qui suit, et rien pour payer ces 15 000 euros de dette. Donc là, il a fallu trouver une solution. Au même moment, moi je suis parti j'ai eu mon bac, donc je suis parti à Montréal. Et en fait, on s'est retrouvé en septembre, octobre à avoir des appels, même un peu avant ça, c'était en juillet, août, juste avant de partir à Montréal. On s'est retrouvé à avoir des appels de la banque et des relances de factures ou juste il fallait qu'on paye en fait et on n'avait pas le choix. Et là, il y a eu un premier mouvement qui a été celui de dire, et c'est là où d'ailleurs, même dans cette étape-là, tu vois, où par exemple avec Antonin, ça a été super important toute cette période-là parce qu'on Antonin est arrivé dans un projet qui existait, on s'est associé dessus et en fait on s'est retrouvé tous les deux dans la même merde et où finalement il a partagé la merde avec moi à fond. Dès le début et jusqu'à la fin, jusqu'au moment où on l'a réglé.
Ça soude, hein.
Ça soude parce que quand tu mets de ta poche 3000 balles de ton prêt étudiant qui est censé payer ton année, finalement que tu mets sur le compte bancaire de la boîte juste pour pouvoir payer les dettes et les créances, quand Antonin fait pareil et que finalement tes parents ne le savent pas, et heureusement qu'ils ne le savent pas parce que sinon, je pense qu'ils m'auraient tué. Ou déshérité ou viré de chez eux, je ne sais pas, mais ça aurait fait un truc comme ça. Et en fait finalement après bon, on a payé au début les trucs les plus urgents et après on a négocié un peu en disant bah on va vous payer vite. On a essayé de trouver de la thune partout, on a rencontré tous les groupes de presse possibles imaginables, on s'est retrouvé face à des mecs qui essayaient de nous entuber en mode oh on va vous aider, oh non en fait finalement on va pas vous aider, en mode on va attendre que vous arriviez jusqu'au tribunal et au moment où vous coûtez un euro, ah bah tiens vous venez et puis en plus vous allez rester pendant 3 ans dans le projet où vous allez payer une misère mais juste pour faire en sorte que ça continue parce que vous avez créé une dynamique cool et ça coûte pas grand chose à faire parce que mine de rien un numéro coûtait 15 000 euros donc c'est rien pour
c'est
un
pas grand chose hein.
C'est rien, mais parce qu'on était une petite équipe, on n'avait aucun frais, en fait, à part l'impression, la distrib et les rédacteurs, tout allait bien, il y a très peu de frais structurels. Et en fait, après, on s'est dit, il faut qu'on paye la fin de toutes ces créances. Et on a trouvé un client en Normandie à qui on a vendu des RP. Et on a vendu des relations presse. Ça s'est fait de façon assez rigolote, d'ailleurs, parce que En fait, les RP qu'on vendait, c'était surtout notre carnet d'adresses qu'on avait eu grâce aux médias qu'on avait pu faire. Bon, ce qui finalement est le but des RP pour un attaché de presse qui se vend. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que la personne à qui on a vendu ça nous a dit ok, j'accepte, mais il me faut un gros média. Et donc, on a un peu dit bah Forbes. Et il a fait ouais, ok, je veux Forbes. Et donc, coup de chance, 2 semaines avant, on avait fait une interview dans Forbes. Et donc on a envoyé un SMS et le sujet lui a plu et en fait l'interview est sortie et nous ça nous a permis d'avoir ce client là, de payer totalement les dettes et en fait on s'est retrouvé à zéro. Ensuite Montréal et donc l'aspect où le petit mardi est mort, on sait pas trop quoi faire, on est à l'équilibre sur le compte et en fait finalement on s'est mis à vendre des trucs très classiques de com. Des sites internet à des clients beaucoup trop petits, beaucoup trop pénibles finalement à gérer parce que t'as pas le plus c'est marrant mais et ça c'est un vrai truc et je pense que en tant qu'entrepreneur t'as dû le voir, plus ton client est petit et paye peu, plus il est chiant,
plus il est pénible
et plus il est gros et qu'il paye beaucoup, moins il t'embête. Et ça a été un vrai truc comme ça.
T'as ce grand truc de 80-20 en fait, tu vois, faut aller chercher les 20% de tes clients qui vont te faire 80% de ton chiffre d'affaires, quoi, tu vois.
Et en vrai, c'est nous, on n'avait pas forcément conscience de ce truc-là, donc ce qui fait qu'on allait chercher l'argent là où il y avait de l'argent et on signait 1500 euros pour ça, 2000 euros pour ça, et nous, ça nous permettait juste d'avoir ensuite, avec Antonin, de l'argent de poche pour pouvoir payer nos études respectives à Paris et à Montréal. On a vendu des vidéos et on a commencé à faire de la vidéo et puis voilà et puis ensuite on a eu un autre client à Paris, un de nos premiers clients, je me souviens c'était en novembre 2019, premier vrai client avec un vrai contrat, il y a une vraie mission à Paris et ça c'était cool. Et puis ensuite, il y a eu les confinements. Et en fait, on s'est retrouvé dans des situations où on ne pouvait plus démarcher. Et à un point où on était en mode démarchage, c'est qu'on a fait quasiment toute la laverie de Paris. On allait voir toutes les laveries de Paris pour leur vendre des produits de référencement sur Internet ou des trucs comme ça. Tellement on savait pas faire non plus, mais qu'on cherchait des trucs à vendre. Les cafés, je me souviens d'après-midi où on avait fait imprimer des faux... Enfin des faux, c'était même pas des faux, c'était des vrais audits, des vrais rapports d'expertise. On allait sur nos sites analytiques, on remplissait les cases, on allait voir un commerce, on lui disait bah juste, voilà, on a fait un mini rapport sur votre situation sur Internet. Si vous voulez qu'on en discute, on se voit. Mais moi, j'étais tellement flippé à l'idée d'aller parler à des gens comme ça, en arrivant dans leur commerce, dans leur café, en disant on a fait ça, on veut vous vendre un truc, que je paniquais et j'y arrivais pas. Et en se disant, on se débrouillait beaucoup mieux là-dessus. Mais en fait, au finalité, on n'a rien vendu. Et on n'a vraiment rien vendu.
Mais c'est un métier, un VRP.
C'est un métier. Et en tout cas, c'était pas le nôtre. Pas le nôtre du tout. Et ce qui fait que voilà, et on s'est retrouvé pendant plein de confinements. Et là, on s'est dit, bon, il faut qu'on trouve un truc en fait. Genre, il y a un moment où on fait 25 000 euros de chiffre d'affaires, 30 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année. C'est pas possible pour une entreprise de faire 30 000 euros de chiffre d'affaires. Il faut qu'on fasse un truc. Et là, il y a eu je sais pas ce qui s'est passé. Mais les étoiles ont dû s'aligner en mode ok, on vous a fait galérer pendant 2 ans les mecs, on vous a recadré un peu parce que vous avez eu des moments cool, à un moment donné faut redescendre, et là on va vous remettre un truc, et si vous spottez bien le machin, vous avez votre ligne pour les prochaines années. Et cette ligne, ça a été TikTok. Et en fait, ça s'est fait en plein confinement, on se faisait chier, on a fait des vidéos sur des anecdotes inspirantes entrepreneuriales. Et là, c'est simple, 20 abonnés, 200, 1000, 10 000, 50 000, 100 000, ça a dû faire 10 millions de vues en l'espace de 2 mois et demi, une vidéo par jour. Et là, on a commencé à être contacté par des marques, notamment une marque d'un groupe d'école près de Lyon, qui nous fait, bah écoutez, nous on vous propose un truc, vous avez jamais, apparemment vous êtes jeune, ça fait que 1 mois vous êtes sur TikTok, vous avez jamais fait d'OP, on vous propose un truc, c'est vous nous faites une vidéo, si ça marche, on vous en rachète plusieurs. Ouais, j'étais là en mode, ouais, mais moi, ça, à titre personnel, ok, c'est cool. Sauf que derrière, l'intérêt, c'était de faire vivre Audace. Et donc, il fallait un truc pour faire vivre
Audace. Alors, Audace, on n'en a pas parlé, mais c'est l'agence.
C'est l'agence, en fait, qui a succédé au Petit Mardi. Ouais. On a changé le nom du Petit Mardi de la boîte. Et donc, ça s'est appelé Audace, O-D-A-C-E.
O-D-A-C-E.
Nom qui est un peu sorti de nulle part, mais qui finalement nous plaît beaucoup. Et qui représente plutôt bien l'ADN, en tout cas, des personnes qui y travaillent, même aujourd'hui, au sens large. Et en fait, le truc, c'est qu'il fallait faire vivre cette boîte. S'enrichir personnellement, on était chez nos parents. Enfin, on n'avait pas besoin de gagner 200 euros de plus maintenant. En revanche, la boîte avait besoin de gagner 200 euros de plus, parce que 200 euros de plus dans la boîte, c'était un moyen de faire peut-être d'autres trucs encore et encore et encore et monter. Et donc, ce qui fait que j'ai proposé à ce mec-là de si la vidéo fonctionnait, on lui créait le TikTok de son groupe d'école. Et ça a marché. On a créé son TikTok, qui a été un premier contrat, je sais plus, 2000 euros, je crois, qui est rentré à peine. Et puis, il y en a eu un deuxième, comme ça. Et en septembre, on a été contacté par Universal, qui nous a proposé de travailler avec eux.
Donc le cinéma ?
Alors, sur la musique.
La musique.
Tout Universal Music France. Et en fait, on a monté une verticale média. Et entre septembre 2020 et aujourd'hui, on est passé de 40 000 euros de chiffre d'affaires à 1,2 million. Donc, quand je te dis croissance, tu vois.
C'est
croissance.
Croissance.
Avec donc le Audace Media et Audace Spirit, qui est une deuxième boîte qu'on a montée en janvier. Et en fait, les choses ont fait qu'on s'est structuré pour le coup très très vite, parce qu'on était deux, trois, quatre. On bossait, si tu veux, avec différents free, etc. On s'est retrouvé à embaucher un DA, à prendre deux alternantes, à avoir nos premiers CDD, et à rentrer dans une dynamique en mode, on est une vraie équipe.
Entrepreneurial, quoi.
C'est ça. Aujourd'hui, on est 10, 11 au total. Enfin, au total, si tu comptes les gens qui sont quasiment, qui sont à temps plein et en free quasi, qui arrivent très très souvent sur les missions ponctuelles qu'on peut avoir et qui sont là au moins 2 jours par semaine, tu vois.
Ok.
Donc voilà, et même en permanente totalement, on est 8. Donc sur les 11-12, quoi. Donc voilà. Et les choses se sont faites. Et ce qui fait que là, on est dans une pente où on sait que finalement, c'est pas pour autant qu'on gagne plus d'argent, mine de rien, parce que t'as ce moment où, en fait, finalement, dans ma tête, il y avait un truc qui était tout bête, mais je me disais, quand on faisait 5 000 euros de chiffre d'affaires, je me disais, attends, le jour où on fait 20 000, là, on est bien. En fait, le problème, c'est qu'au moment où tu arrives à 20 000 euros chiffre d'affaires, tu te rends compte que si tu arrives à 20 000, c'est donc que tu as vendu 20 000. Et donc, il faut effectuer ces 20 000. Et donc, naturellement, bah.
Tu fais pas tout tout seul.
Tu fais pas tout tout seul. Donc, t'as des frais. Donc, bah, bizarrement, ça te coûte 14 000. Donc, il te reste 6. Donc, t'es là en mode putain. Donc, c'est-à-dire que le jour où je veux vraiment faire 20 000 vraiment de cash, il faut que je fasse 40. Et en fait, finalement, bah, c'est ça. Plus ça monte et plus tu te rends compte que t'as des frais jusqu'au moment où t'arrives dans la pente, où t'as une business unit qui marche super bien, que t'as super bien staffé et ce qui est en train de se passer là. Donc, tu sais que t'as besoin de tant de personnes pour gérer tant de clients. Que tu as derrière du temps libre, ou qu'ils ont du temps libre à pouvoir accorder à de nouvelles personnes, à de nouveaux projets. Et donc à ce moment-là, bah, en fait, tu as deux trucs qui se passent. C'est un, tu es capable d'aller chercher de nouveaux clients qui finalement vont s'intégrer sur cette équipe-là. Et deux, tes prix augmentent naturellement. Parce que entre ce que tu vends il y a un an, sans savoir vraiment faire, est-ce que tu vends maintenant avec une équipe de cette personne, et avec des DA, et avec des directeurs de la création, et avec des studios, etc. Bah, tu les vends facile 2 à 3 fois plus cher. Et donc, ce qui fait qu'il y a un moment donné où là, nous, on est en train de le voir, où on a eu la phase, on sort de la phase où ça stagne un peu, au moment où, en fait, là, ça commence à rentrer dans une phase de rentabilité, de croissance, où derrière, il faut investir sur les projets et aller plus loin, beaucoup plus vite.
C'est le problème des métiers d'agence, un peu. C'est que, effectivement, plus tu as de projets, plus tu es obligé d'embaucher de gens, quoi.
Alors,
jusqu'à.
C'est là où, tu vois, par exemple, sur un modèle d'agence publicitaire ou de com assez classique, tu vas avoir un gros projet avec un gros brief qui va coûter très cher, où tu vas avoir 30 personnes qui vont bosser dessus, parce que entre les mecs qui sont au digital sur les CM, les mecs qui vont écrire, les copywriters, etc. Enfin bref, tu t'arrives à un moment donné, les graphistes et tout, t'as 30 personnes qui participent sur un projet, et ça coûte beaucoup d'argent, tu vas dégager de la marge, mais ça va prendre 6 mois de vente passante. Nous, on a l'avantage d'avoir, en fait, une gestion de nos projets qui est même gestion, enfin, qui est même comparable. Notre système de production est comparable à un système de production à la télé ou à la radio. C'est du flux. Nous, on produit qu'en flux. Donc, c'est-à-dire qu'on a, c'est simple, on a produit 1200 contenus en 5 mois, ces 5 derniers mois, ces 1200 contenus-là. Ils sont dans une chaîne de production de la même manière que t'as la voiture qui rentre sur une chaîne de production chez Peugeot à Sochaux et qui ressort à la fin, et il y avait au début un bout de métal et ça devient une voiture qui va aller sur la route. Et c'est exactement pareil avec toutes les personnes qui interviennent au bon moment et qui font en fait à la fin que ta voiture roule et que ça marche. Et donc nous, on a tout ce véhicule là où au fur et à mesure on ajoute des options. On avait par exemple, on gérait pas du tout très peu le gros, on avait très peu d'analytics parce qu'on avait personne pour gérer
Le gros, quand tu parles ça, c'est
oui,
de...
donc c'est vraiment toute la partie croissance pour le coup des contenus, toute la partie paid ou vraiment la gestion publicitaire, des campagnes publicitaires directement qui sont faites avec du budget pour que ça marche sur des plateformes. Nous, on gérait pas ça il y a encore 4 mois. Aujourd'hui, on sait le faire. Et donc aujourd'hui, on est capable de pouvoir gérer ce budget média, et donc d'ajouter encore une corde à notre arc qui nous évite non seulement de dire à un client ah bah désolé on sait pas faire, faut aller voir ailleurs, donc ça nous permet de canaliser aussi le client et de l'avoir chez nous, mais en plus de ça, ça nous évite de faire appel à des prestats et donc à la fin de pouvoir grossir aussi, de gérer une masse de budget plus importante, et ça c'est cool parce que pour le coup là on se rend compte que depuis septembre, et on a fait on fait souvent des points pour le coup avec l'équipe parce qu'on a tout le monde est un peu arrivé entre septembre et janvier grosso modo, et quand on voit les contenus qu'on produisait en septembre-octobre dernier et les contenus qu'on est capable de produire maintenant, d'ailleurs à peine 200 mètres de là où on se trouve, il y a un des studios qu'on utilise souvent où là il y a un tournage en train de se passer pour un de nos clients, toi, on voit la différence. Et d'ailleurs, nos clients voient la différence aussi.
Ah oui, vous avez embauché des
salles, ils se rendent compte de la différence, de la croissance et de la qualité aujourd'hui qui bouge. Donc ça, c'est génial parce que nous, ça nous permet non seulement de montrer qu'on sait faire. Aujourd'hui, on a des très belles marques avec qui on bosse et on est capable demain d'aller voir des clients qu'on n'aurait jamais pu approcher il y a 6 mois et juste de leur dire voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on sait faire et voilà comment on peut avancer ensemble. Et avec en plus de ça, une plus-value qui est géniale, c'est que toutes les personnes qui travaillent chez nous quasiment sont influenceurs. Ou du moins ont une communauté sur les réseaux et maîtrisent les réseaux. Je prends l'exemple de Ambre par exemple, qui est notre account manager et notre responsable influence. Elle a 130 000 ou 140 000 abonnés sur TikTok, elle a 40 000 sur Instagram, elle maîtrise excessivement bien ce système et les réseaux, donc ça fait qu'elle est capable de proposer finalement à nos clients aussi un point de vue qui est celui en fait de la cible, donc pour ça c'est génial. On a aussi une plus-value énorme qui est celle juste qu'on est jeune et qu'on consomme énormément de contenu. TikTok, c'est 66 minutes de consommation quotidienne par jour, enfin quotidienne de, sur une tranche d'âge, je dirais 13-25 ans à peu près,
ouais.
sur ces chiffres-là. Et on est pile dedans et on consomme beaucoup de contenu, beaucoup. Et de la même manière qu'on a aussi un avantage énorme, c'est que finalement, vu qu'on n'est pas une agence où on est 50, nos tarifs ne sont pas les tarifs d'une agence qui a 50 personnes. On est quasiment 10 fois moins cher aujourd'hui qu'une agence publicitaire à Paris qui est implantée depuis 20 ans.
Ça te manque pas le papier et tu vois les longs articles et comme tu disais
sujet sensible
les articles sur la cire. Non mais c'est intéressant
en vérité sujet qu'on lâche pas non plus Antonin et tout comme moi sur ce point de vue sur cette idée d'arriver à créer de nouveaux projets et notamment sur les choses qui nous passionnent. Il y a la philo, il y a les contenus vidéo personnels, il y a le papier, il y a des projets encore plus grands et d'autres choses. Disons que nous, tant qu'on est capable de voir un projet qui est plus grand que nous, donc qui va vraiment nous demander personnellement de nous élever pour le faire, on va y aller. Donc la question, c'est juste quand, à quel moment on peut le faire dans notre planning et dans tout ce qui se passe, sachant que ces 6 derniers mois, 8 derniers mois, même cette année a été très particulière, parce que partagée entre des moments de croissance, des moments de ralenti avec les confinements, des moments d'épuisement, des moments où finalement en fait tu bosses comme un fou, puis 2 mois après beaucoup moins parce que t'as recruté des gens et en fait tu te rends compte que bah merde, on fait quoi aujourd'hui, notre journée, tu vois. Et là aujourd'hui on est dans une dynamique où au contraire on a beaucoup d'idées et vraiment beaucoup d'idées pour la croissance de la boîte et peut-être des projets papier peut-être.
Non, je trouve ça marrant, tu vois, de là où vous venez, d'avoir fait un magazine papier, etc., où vous avez eu des problèmes de sous, quoi, tu vois, d'avoir réussi à trouver votre modèle financier autour d'une plateforme comme TikTok, sans la dénigrer, tu vois, qui est vraiment une plateforme de snack,
snack content. Absolument, de snack content. Là où c'est, nous là où on se positionne aussi, c'est là où, pour le coup, notre passé de la presse revient, c'est que déjà, en fait, TikTok a été une rampe de lancement pour nous. Aujourd'hui, on propose beaucoup de TikTok, mais en fait, on a développé aussi toutes les verticales médias qu'on fait pour nos clients sur Insta, sur Facebook, même encore, et beaucoup sur LinkedIn, sur Twitter, sur YouTube. Il y a encore plein d'autres réseaux sur lesquels on essaye de faire des trucs, mais en tout cas, ça fait partie de cette dynamique de contenu. Ensuite, snack content, oui, ce sont des contenus rapides. La majorité de nos contenus qu'on produit ça fait entre 30 secondes et une minute. Mais on a, si tu veux, une sorte de cahier des charges interne quand on crée un projet et quand on suit un projet. C'est simple, c'est non seulement ça doit être pédagogique, non seulement il doit y avoir une quelconque vertu humoristique qui va apporter quelque chose, si tu veux, et de façon générale ça doit être informatif. Donc c'est-à-dire qu'au fond, le contenu qu'on produit doit apporter de la valeur aux gens. S'il n'apporte pas de valeur, il ne sert à rien. Et donc là on rentre dans une dynamique de snack content qui ne dépend plus de notre boîte et qui n'est pas faite pour nous. Donc par exemple, dans le travail éditorial qu'on fait, on a des auteurs qui, d'ailleurs certains sont des auteurs qui travaillaient sur Le Petit Mardi, qui travaillent de la même manière qu'ils écriraient un article. L'idée, c'est on peut-être même quand l'article fait 3 lignes finalement pour une vidéo TikTok, c'est on te raconte une chose, non seulement on va te raconter quelque chose pour que tu restes et que tu écoutes, mais en plus de ça, on veut que tu repartes, que tu fermes ton téléphone ou que tu ailles voir une autre vidéo, mais que le lendemain, en repas de famille, tu t'en souviennes et que tu racontes cette anecdote. Et donc l'idée, c'est d'arriver à faire ça, et en plus quand ça tu peux le faire avec des voix qui sont agréables, avec un contenu qui est joli à voir, t'as gagné, si tu veux, ton pari. Et donc snack content, oui, mais qui apporte de la valeur.
Donc l'autre truc de ta rentrée, c'est que tu vas travailler chez Europe, hein, parce que après tout, pourquoi pas?
Pourquoi pas? Bah disons que c'est une opportunité qu'on m'a proposée et que je pouvais difficilement refuser parce que j'aime terriblement les médias et la radio, que c'est un moyen de découvrir aussi. J'ai toujours connu la radio pour le coup en tant qu'invité ou sur des événements ou des trucs comme ça, jamais en interne à travailler dedans. Et je trouve ça pour le coup assez génial à faire avec Philippe Vandel qui est un mec absolument génial par son expérience, par la personne qu'il est, par son émission qui est top. Donc c'est un plaisir de travailler avec lui et toute l'équipe qui est géniale de Culture Média, donc qui est vraiment l'émission Culture et Média d'Europe 1. C'est l'émission médiatique la plus suivie en France, la plus écoutée, la plus regardée même sur les réseaux. Il y a un truc qui est passionnant pour un mec comme moi qui aime terriblement les médias, qui aime travailler dans les médias et qui travaille finalement dans les médias, juste ne serait-ce que par audace et voilà. Oui, oui. Le fait de travailler sur une émission de médias sur Europe 1, c'est absolument passionnant. Donc ça me fait me lever un petit peu tôt, mine de rien, parce que 5h du matin pour être à 6h max là-bas. mais c'est chouette, c'est Europe 1 le matin, Audace l'après-midi.
Comment tu vis le fait de te retrouver de ce fait-là? Là, pour le coup, t'es plus à la tête de ton projet, quoi. Même si t'es rédac chef, c'est ça?
Ouais, bah disons que ça, c'est un truc un peu particulier que j'appréhende pas encore tout à fait. Mais malgré tout, ouais, je suis rédac chef. Et au-delà de ça, en vérité, je suis moins gêné parce que le projet me botte beaucoup, je crois.
Okay.
C'est quand j'en ai parlé avec mes parents, ma mère m'a dit: ah bah tu vois, toi qui voulais pas de CDI, finalement qui va signer un contrat de travail? et c'était là, mais me dis pas ça, parce que ça va me donner envie de refuser en fait. Et finalement les choses font que ça reste passionnant, les sujets sont passionnants, il y a un peu de taf quand même, mais le fait de pouvoir rencontrer des gens qui sont dans les médias, qui travaillent dedans, dans le milieu de la culture, ça rejoint Le Petit Mardi, ça rejoint Audace, c'est entre les deux, et même j'apprends énormément. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un apprentissage aussi rapide et profond, mine de rien, parce que ça fait 10 jours, et 10 jours où j'ai appris à écrire, à faire des interviews radio, à les écrire, à savoir, mais même des trucs tout bêtes de style ou ce genre de trucs que je trouve vraiment rigolo et que j'aurais jamais pensé faire. Ça me permet de rencontrer des gens. Et puis ouais, non, c'est une expérience qui est géniale. Je sais pas combien de temps ça durera, et je me suis fixé aucune date ni quoi que ce soit. Juste, évidemment, pour l'instant, c'est encore en phase où j'essaie d'organiser les choses pour que ça se passe bien. Surtout par rapport à Audace, pour que les choses fassent que ça coule, et que voilà, Antonin est super compréhensif là-dessus aussi, et m'aide, donc c'est pratique. Mais disons que l'idée, c'est qu'à un moment donné, j'espère, en tout cas si ça continue, qu'il y aura. On arrivera à trouver le modèle parfait qui fasse que tout tourne et que l'un aide l'autre aussi.
Et pour le coup, là, t'es dans un grand écart d'âge, parce que si je me trompe pas, Europe 1, leur cible, elle est ultra vieillissante. Enfin, t'es vraiment sur, sur les seniors, quoi.
Mine de rien, c'est aussi pour ça que Vandel, pour le coup, m'a proposé, si j'ai bien compris, c'est que cette idée, non seulement que je ne suis pas journaliste, donc j'ai aucune envie de devenir journaliste. Ce sera jamais mon travail, c'est un métier, c'est une école, il y a des codes, il y a des règles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer du contenu et d'apporter limite une vision entrepreneuriale à une émission dans sa forme du contenu pur.
Okay.
Donc vraiment dans l'idée de ce qu'on peut faire chez Audace quand on crée du contenu. Dans ma tête, c'est vraiment ça. C'est comment on crée un contenu qui est pertinent. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pousse beaucoup le web à poster toutes les vidéos possibles de l'émission, parce qu'il y a l'idée, c'est d'arriver à faire des séquences qui sont des vraies séquences, qui sont capables d'être shortées et d'être balancées. Et ça c'est vraiment un truc qui est passionnant pour le coup. C'est un truc qui est passionnant parce que t'arrives dans un endroit où t'es jeune, où il y a des codes qui sont différents, où t'as une cible qui est différente, où il y a un truc qui est très cadré, mine de rien. Tu t'es chronométré.
La radio, c'est pas le web. Hein,
c'est ça. Et donc ce qui fait qu'il y a un aspect que je trouve assez passionnant, parce que vu que t'as des contraintes, t'es obligé de t'adapter véritablement et correspondre à ces contraintes, mais en même temps en essayant de faire des trucs différents et en essayant d'imaginer des choses. Et pour le coup, ça inspire énormément de formats.
Oui, c'est vrai
qu'il y a une forme de boost, en tout cas intellectuel, dans cette idée de créer des trucs et d'imaginer des trucs.
Bon, bah Guillaume, merci beaucoup.
Merci, c'était un plaisir.
C'était super.
Bah,
bravo pour ton parcours. Et puis,
pour le coup, je crois que c'est la première fois que je fais un podcast comme ça.
Tu veux dire que...
Ah bah, que je fais un podcast, en fait.
Comment que tu fais un podcast?
Ouais, parce que à part la série sur Magellan, tu vois, j'avais jamais vraiment répondu à une invitation comme ça. Donc non, c'était très agréable.
Bah, avec grand plaisir.
J'espère que ça intéressera les gens.
Je crois que oui.
En tout cas, merci beaucoup.
À plus.
À bientôt.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit: comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.